Yulia Shukan, maîtresse de conférence à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de l'Ukraine, sociologue, rattachée à l'Institut des sciences sociales du politique à Nanterre et associée du CERSEC, Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre européen à l'EHESS. La résistance ukrainienne nous impressionne parce qu'on voit tous ces images d'hommes et de femmes à la fois mobilisés sur les lignes de front, puisqu'il y a les forces armées, mais ensuite on voit les civils mobilisés dans ce qu'on appelle les unités de la défense territoriale. Mais on voit aussi beaucoup de phénomènes de solidarité, d'entraide, de personnes qui s'impliquent dans l'évacuation des civils, dans la distribution des provisions dans les villes assiégées par l'armée russe, ou encore de personnes qui collectent des fonds et achètent des équipements ou encore des provisions pour l'armée également. Et en fait, pour comprendre cette résistance citoyenne, il faut certainement se rappeler que la guerre dure depuis 8 ans en Ukraine. Il y a toute une série d'événements qui s'enchaînent à une vitesse incroyable depuis 2014. Tout commence d'abord par cette résistance des Ukrainiens sur le Maïdan, face à la décision du président Yanukovych, donc le président ukrainien de l'époque, de suspendre l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Donc on a vu une grande mobilisation à Kiev autour d'une des places centrales, donc la place de l'indépendance, Maïdan, mais également dans d'autres villes. Et cette mobilisation qui a duré presque 3 mois, même un peu plus, a connu des séquences violentes parce que le régime a refusé de négocier avec les manifestants et a misé sur une réponse sécuritaire. Et à l'issue du Maïdan, quand les manifestants ont eu raison et avaient acculé à l'époque le président Yanukovych à la fuite, la Russie a profité de cette faiblesse de l'Ukraine pour annexer la Crimée d'abord. Et ensuite, très rapidement aussi, le sud-est de l'Ukraine s'est embrasé parce qu'il y a eu une grande méconnaissance de ce qui s'est passé sur le Maïdan, un certain nombre de craintes identitaires des populations de l'est de l'Ukraine qui ont fait descendre aussi les gens dans la rue, s'engager dans la protestation. Et la Russie a profité de ce moment également pour alimenter ce sentiment de ces angoisses identitaires pour favoriser les sentiments pro-russes. Une guerre donc qui s'est engagée plus ou moins depuis avril 2014, entre les forces armées ukrainiennes et les forces, les unités armées séparatistes pro-russes. Et donc, au terme de ces 8 ans, la guerre est devenue en quelque sorte le quotidien de beaucoup de citoyens qui sont restés mobilisés depuis 2014 et jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a vu se mettre en place tout un réseau de bénévolat, d'assistance à la fois aux lignes de front, mais aussi aux populations civiles victimes de la guerre, notamment à ces civils à la fois qui restaient dans la zone de la guerre ou qui se déplaçaient. Et ces réseaux de bénévolat constituent en quelque sorte une arrière-base de cette mobilisation. Pour ma part, j'ai travaillé pendant tous ces 8 ans à Kharkiv, donc une ville de l'est de l'Ukraine aujourd'hui également attaquée et bombardée par l'armée russe. Tous ces réseaux qui s'étaient mis en place en 2014, j'ai vu comment ils avaient continué à travailler pendant toutes ces années-là et comment ces réseaux se sont remobilisés. Donc des personnes qui étaient déjà engagées dans l'assistance à l'armée continuent à aider notamment les unités de la défense territoriale ou continuent aussi à travers la ville, à l'échelle de la ville, dont les quartiers sont sous bombardement intensif de l'armée russe, à évacuer les gens, à les aider au quotidien. Un point à relever, c'est aussi le nombre de retours d'Ukrainiens donc qui étaient partis à l'étranger. Et on sait que ce phénomène de migration de travail est extrêmement en Ukraine et que beaucoup d'Ukrainiens, notamment les Ukrainiens du centre et de l'ouest du pays, mais également de l'est, partaient en Pologne, dans d'autres pays européens, pour travailler, pour gagner de l'argent et envoyer ensuite les fonds à leur famille restée en Ukraine. Et on a vu ce phénomène de retour aussi. Là-dessus également, on a quelques chiffres officiels. Il y aurait 300 000 retours depuis le début de l'invasion russe. Et je vois effectivement, même autour de moi, parmi mes étudiants qui ont des origines ukrainiennes, ces histoires d'Ukrainiens qui évacuent leurs proches d'abord depuis les régions ou les villes qui se trouvent sous bombardement et qui eux-mêmes ensuite, alors qu'ils sont déjà plutôt bien installés en Europe occidentale, ont un travail sur place, donc qui décident de rentrer en Ukraine pour prendre les armes et une fois de plus défendre leur pays. Un autre point à souligner dans cette résistance citoyenne, c'est ce fort sentiment d'appartenance nationale qui s'est renforcé en Ukraine déjà depuis 2014, donc avec les débuts de la guerre du Donbass, et qui se renforce encore aujourd'hui, puisque effectivement c'est un État qui se construit depuis 1991, donc à la chute de l'URSS, mais la guerre qui avait commencé pour beaucoup d'Ukrainiens déjà en 2014, elle a renforcé ce sentiment d'identification nationale, ce sentiment d'appartenance qui pouvait auparavant être très local, mais qui est aujourd'hui un sentiment d'appartenance à une nation, au sens politique du terme, à l'Ukraine. Beaucoup d'Ukrainiens qui parlaient et qui pratiquaient au quotidien le russe jusque-là essaye de prendre de la distance avec le russe et de passer vers l'ukrainien, en sachant que l'Ukraine est un pays bilingue, où 94% de la population est bilingue. Et donc, il y a une distanciation qui s'était déjà engagée, ce phénomène de distanciation vis-à-vis de la Russie en 2014. Il va se conforter, se renforcer, comme conséquence effectivement de cette violence armée, violence indiscriminée que la Russie pratique à l'égard des populations ukrainiennes.